VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Actualité américaine, convention républicaine de Cleveland dans l'Ohio. Aujourd'hui est la dernière journée de la réunion qui sera clôturée dans la soirée par un discours final de Donald Trump, formellement investi comme candidat à la Maison-Blanche. On retrouve à Cleveland l'un de nos envoyés spéciaux à la convention, Nicolas Pineau.
Oui, le candidat républicain qui va s'exprimer ici depuis la Quicken Loans Arena de Cleveland. On attend beaucoup de ce discours. Avant de l'entendre, il sera introduit par sa fille, Ivanka. On sait qu'il est très proche d'elle et qu'elle est très présente, notamment au sein de sa cellule de communication. Alors évidemment, dans ce discours, il y aura certainement des attaques contre Hillary Clinton, comme depuis le début de cette campagne. Mais ici, beaucoup attendent de la substance, des idées. Donald Trump veut rendre à nouveau à l'Amérique sa grandeur. Comment veut-il s'y prendre? Combien cela va-t-il coûter? Il faudra donner des réponses devant les délégués de la convention. On suivra ça, évidemment, sur VOA Afrique.
Hier, Donald Trump a subi un revers politique, un véritable affront à la convention lorsque son ancien rival Ted Cruz a refusé de lui apporter son soutien. La soirée avait pourtant bien commencé pour Donald Trump avec le discours de son colistier pour la vice-présidence, le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence. On écoute le reportage de notre autre envoyé spécial à Cleveland, Idrissa Seloudia.
I accept your nomination to run and serve as vice president of the United States of America.
Le gouverneur de l'Indiana a commencé par parler de ses humbles origines et des vertus que lui ont inculquées ses parents, le travail, la foi et la famille. Il a souligné qu'il est d'abord chrétien et père de famille avant toute autre chose. Ses héros, pendant qu'il grandissait, étaient, a-t-il déclaré, l'ancien président démocrate John Kennedy et Martin Luther King Jr., le leader du mouvement des droits civiques. Mais il a bien montré qu'il restait profondément enraciné dans les valeurs conservatrices chères au héros des républicains, l'ancien président Ronald Reagan.
Indiana is a state that works because conservative principles work every time you put them into practice.
Selon le colistier de Donald Trump, les principes conservateurs marchent chaque fois qu'on les met en pratique. Il a dénoncé la gestion économique et budgétaire de Barack Obama, soulignant que l'élection de Hillary Clinton, la candidate démocrate, ne serait qu'un troisième mandat du président sortant. Mike Pence s'est ensuite évertué à vanter les qualités de Trump qui permettront de restituer, a-t-il dit, à l'Amérique sa grandeur, ici même aux États-Unis et à l'étranger. À la différence d'Obama et de Clinton, Donald Trump sera un président fort et résolu. Mais son discours a été éclipsé par le refus public de Ted Cruz d'appuyer la candidature de Donald Trump. Il a été conspué par les délégués de New York et le mouvement s'est étendu à toute la salle pour avoir demandé aux électeurs républicains de voter leur conscience.
If you love our country and love your children as much as I know that you do, stand and speak and vote your conscience, vote for candidates up and down the ticket.
Clairement, pas une consigne de vote pour Trump, pas un soutien au candidat républicain dans sa propre convention d'investiture. Idrissa Seloudia, Cleveland, dans l'Ohio.
Afrique maintenant, au Mali, l'état d'urgence y avait expiré la semaine dernière. A été réinstauré à compter de ce jeudi en raison de l'attaque au cours de laquelle 17 soldats ont été tués à Nampala, dans le centre du pays. Un deuil national de 3 jours a été proclamé après cette attaque meurtrière, la dernière en date d'une longue série dans la région. Nampala est une ville de la région de Ségou, à plus de 510 km de Bamako et proche de la Mauritanie. Elle abrite le deuxième camp militaire le plus important de la région après celui de Ségou, la capitale régionale. Un camp qui a été attaqué tôt mardi matin par des hommes armés. D'après Ousmane Cornio, expert malien en gestion de conflit, l'attaque de Nampala est révélatrice des failles profondes dans le système sécuritaire de Bamako.
Tout le monde regrette que cette attaque ait lieu parce que tout le monde connaît la vulnérabilité et la fragilité de ce point. Il y a une première attaque et une deuxième attaque. Et dans cette zone, pas plus tard qu'au mois de mars-avril, il y a eu 5 casques bleus qui ont été tués non loin de cette zone. C'est aussi dans cette zone qu'il y a eu le conflit entre les Peuls et les Bambara, où il y a eu une trentaine de morts. C'est suffisamment révélateur pour qu'on puisse prendre au sérieux la problématique de la sécurité dans cette zone et mettre les moyens qu'il faut. C'est vraiment une déception aussi bien au niveau de l'État que des forces de sécurité que la population.
Ousmane Cornu, expert en gestion de conflits à Bamako, au Mali.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé hier au cours de sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres de suspendre les activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. Cette suspension intervient à la suite des violences qui ont émaillé le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan lundi. John Lindon s'est entretenu avec Daniel Nincemont, président national de la jeunesse étudiantine de Côte d'Ivoire.
La suspension des syndicats intervient après les différents événements survenus sur le campus universitaire de Cocody suite à une vague de revendications qui a entraîné les casses de plusieurs véhicules, des destructions de biens publics et aussi nous avons des actes de vandalisme puisqu'il y a du matériel qui a été notamment dérobé pendant cette vague de revendications.
Les tensions entre la police, le gouvernement et les étudiants durent quand même depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a une porte de sortie des crises, à votre avis?
Oui, il y a une porte de sortie des crises. Je pense que celle qui serait la mieux utilisée et la plus idoine est la porte de négociation et de dialogue. Un ensemble de structures d'organisations étudiantines avait déjà entrepris des démarches pacifiques en vue de trouver des solutions et là qu'est intervenue ces vagues de violence orchestrées par un certain nombre de syndicats.
Maintenant que les syndicats d'étudiants sont suspendus, qui est-ce qui va discuter avec les autorités?
Nous avons déjà des organisations bien structurées qui sont à même de pouvoir poser les problèmes réels sur les tables de négociation avec un certain nombre de procédés plus ou moins recommandés qui peuvent amener un certain nombre d'accalmie, surtout de l'apaisement.
Daniel Nincemont, président national de la jeunesse étudiantine de Côte d'Ivoire. Nigeria, Médecins sans frontières appelle à une mobilisation humanitaire massive dans l'état de Borno, dans le nord-est, touché par les violences des islamistes armés. Plus de détails avec Isabelle Defourny, directrice des opérations de MSF.
Dans les villes de Bama, par exemple, il y a environ 10 à 15 000 personnes qui vivent dans le campement d'un hôpital, donc dans un périmètre de 400 mètres sur 400 mètres, donc dans des espaces très restreints. Peu de nourriture arrive dans ces sites, l'accès aux soins est inexistant et les habitations sont aussi extrêmement précaires. La ville a été complètement détruite et donc les gens se sont fabriqués des petites cabanes avec des tôles. Il n'y a pas de latrine non plus par exemple et un accès à l'eau qui est insuffisant. Alors aujourd'hui ce qu'il faut de toute urgence c'est mobiliser l'aide internationale, surtout pour qu'il y ait des distributions de nourriture qui se mettent en place rapidement. Il y en a déjà des acteurs comme le CICR, le Croissant Rouge Nigérian ou un organisme d'urgence étatique qui ont commencé des distributions de nourriture, mais c'est totalement insuffisant.
Isabelle Defourny, directrice des opérations à Médecins sans frontières. Et puis en RDC, les autorités nationales et les Nations Unies ont lancé hier à Kinshasa une campagne massive de vaccination contre l'épidémie de fièvre jaune. Les détails avec Tatiana Mosso.
L'opération a été lancée à Kizinko, commune de Kinshasa, où quelques 80 cas suspects ont été enregistrés et où 4 personnes sont mortes de la maladie. Vital Kabuiku, ministre de la Santé de la province de Kinshasa, a rappelé, au début de la cérémonie de vaccination symbolique de près de 400 personnes, que la fièvre jaune n'a pas de traitement spécifique, seule la vaccination permet de se protéger contre elle. Selon l'OMS, la campagne vise à vacciner plus de 4 millions de personnes en Angola et quelques 11 millions en RDC, pour un coût estimé à 34 millions de dollars. L'épidémie s'est déclarée en décembre 2015 en Angola, qui partage une longue frontière avec la RDC. En Angola, 355 personnes sont mortes et en RDC, il y a eu au moins 85 décès. La fièvre jaune est une maladie hémorragique vitale transmise par le même moustique vecteur de Zika ou de la dengue.
Et puis en Angola, le Parlement angolais a adopté hier une loi d'amnistie pour les personnes condamnées à des peines maximales de 12 ans de prison pour des délits non violents. un texte qui devrait s'appliquer à 17 opposants assignés à résidence. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.